Le goût d'entreprendre.
Le goût d'entreprendre.
Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous avons décidé aujourd'hui de vous emmener à l'école. L'école à l'envers, vous allez le comprendre, revisite les modèles existants, bouscule les codes bien rodés de nos apprentissages. L'école à l'envers vient d'ouvrir à Verfeuille, dans la banlieue de Toulouse. Marie Narjou, une des fondatrices de l'école, est avec nous pour en parler. Devons-nous repenser l'école? Est-elle adaptée à tous les enfants? Bonjour Marie Narjou.
Bonjour.
Vous avez fondé l'école à l'envers et vous êtes installée à Verfeuille, c'est dans la banlieue de Toulouse, c'est bien ça? Vous voulez mettre l'enfant au cœur des apprentissages. C'est une école complètement différente, c'est un modèle nouveau, on va dire. Alors est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous présenter votre pédagogie?
Oui, alors...
L'école à l'envers, qu'est-ce que c'est?
La pédagogie, alors je commencerai peut-être par une petite définition de l'école à l'envers pour que tout le monde situe bien dans le cadre scolaire en fait. Nous sommes une école privée hors contrat, c'est-à-dire que nous ne sommes pas subventionnés par l'État, mais que nous répondons à la loi, à l'obligation d'instruction fixée entre 6 et 16 ans, c'est-à-dire que nous sommes contrôlés par l'académie. L'école à l'envers, c'est une école effectivement très différente. L'inspiration de cette école, c'est le modèle de la Sudbury Valley School,
aux États-Unis,
voilà, qui est né il y a une cinquantaine d'années aux États-Unis, à l'initiative de deux universitaires, les époux Greenberg. Et c'est donc ce modèle des écoles démocratiques a évidemment égrené beaucoup de nouvelles structures. Il y en a une quarantaine dans le monde, environ entre 7 et 10 qui sont ouvertes en France. Et un très grand nombre de projets qui arrivent et qui vont sans doute ouvrir dans les 5 années qui arrivent. Je vous détaille le modèle pédagogique.
Justement, vous avez parlé, Marie, et c'est important ce terme, école démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, école démocratique? C'est une pédagogie?
Alors, c'est un des fondements du modèle pédagogique de la Sudbury Valley School, c'est-à-dire que la vie de l'école est structurée par la vie démocratique. Chacun des membres de l'école...
Les enfants ou les parents?
Alors, pas les parents. Les membres de l'école, c'est-à-dire les gens qui fréquentent l'école au quotidien. Entre 3 et 80 ans, si un adulte de 80 ans est présent dans l'école. C'est-à-dire il n'y a pas de limite d'âge, en fait. On pourrait même dire qu'on est scolarisé à 80 ans, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, je parle des membres enfants et du personnel adulte encadrant.
D'accord.
Donc chacun des membres dispose d'une voix dans le conseil d'école pour prendre des décisions qui concernent soit le fonctionnement de l'école, soit sa gestion, ou soit ses projets. Chacun est libre de proposer des choses et d'influencer le fonctionnement, et est aussi responsable du bon fonctionnement de l'école. C'est une école qui fonctionne en autogestion.
Voilà, ça d'accord, ça c'est important, ça on a bien compris. Alors donc, c'est-à-dire que vous décidez ensemble, par exemple, des menus de la cantine, vous décidez ensemble des sorties, du projet pédagogique de l'école?
Oui, alors
le projet... Vous demandez l'avis des enfants, comment ça fonctionne?
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun peut faire une proposition ou une annonce au conseil d'école. Et après, c'est voté de manière démocratique, c'est-à-dire une personne égale une voix. Les propositions ne viennent pas que des adultes, les propositions viennent aussi des enfants et peuvent influer le règlement intérieur, par exemple, de l'école. Il y a déjà un règlement intérieur qui est le règlement intérieur, on va dire, de base des écoles démocratiques. Le modèle pédagogique, il est instauré d'une certaine façon, mais l'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il est mouvant en fonction des membres de l'école. Et on peut être amené à revisiter une règle du règlement intérieur. On peut être amené à décider que quelque chose qui jusqu'à présent fonctionnait ainsi fonctionnera autrement après. Voilà, mais de manière absolument démocratique.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement chez vous?
Qu'est-ce qu'on apprend?
Déjà, vous accueillez les enfants de 3 à 16 ans, c'est-à-dire jusqu'à
3 à 19 ans.
À 19 ans.
3 à 19.
Donc, c'est-à-dire fin de lycée. Oui. Vous leur faites passer le baccalauréat. Ils ont accès donc au diplôme.
Alors, en fait, il n'y a pas de propositions de la part de l'adulte dans le modèle des écoles Sudbury. C'est-à-dire que nous fonctionnons sur le mode des apprentissages autonomes. C'est l'enfant lui-même qui est son propre moteur d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire l'activité qu'il souhaite, aussi longtemps qu'il le souhaite, et quand il le souhaite. Et sans aucune hiérarchie entre les différentes activités. On peut très bien décider d'entreprendre, de construire une cabane dans le jardin, au même titre qu'on peut entreprendre de passer son baccalauréat. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de jugement à faire sur les activités des enfants. Voilà.
C'est une pédagogie qui a fait ses preuves déjà, parce qu'on a l'impression que c'est la liberté totale. Alors qui entre guillemets, j'allais dire, chapeaute un peu tout ça? Quelles sont? Il y a quand même des règles.
Oui, il y a beaucoup de règles, mais ce sont principalement des règles de vivre ensemble. C'est le règlement intérieur de notre école, il est assez détaillé, c'est des règles de bien vivre, mais qui sont, comment dire, qui ne laissent rien passer quant au respect que l'on doit à chacun des membres. C'est-à-dire que toute forme d'humiliation ou de petite moquerie qui pourrait passer inaperçue ailleurs, chez nous, ça passe pas inaperçu en fait. Ça passe au Conseil de justice. Donc ça, c'est pour les règles. Et avant, vous m'avez posé une autre question.
J'allais dire, qu'est-ce qu'on apprend concrètement et qui est derrière en tant que, entre guillemets, attention, oui. Et je mets des guillemets, chef et cadre les choses.
Il n'y a pas de chef et il n'y a personne qui cadre les choses. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand je parlais de, avant l'émission, quand je parlais de l'aval de la science. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle pédagogique reçoit l'aval des découvertes des neurosciences des 10 dernières années.
Ouais.
C'est-à-dire que, enfin, il y a plusieurs découvertes. On peut s'en référer notamment à l'ouvrage de la pédiatre Catherine Guéguen, qui explique très bien le fonctionnement du cerveau, et notamment le fonctionnement du cerveau en apprentissage. Un cerveau n'apprend durablement, c'est-à-dire ne fixe des savoirs fondamentaux, qui sont des savoirs qui permettent de comprendre le monde et de trouver sa place, que dans le plaisir. C'est-à-dire que tout apprentissage contraint, ou bien qui reçoit une motivation extérieure, qui peut être avoir une bonne note par exemple, ne génère pas des savoirs profonds. C'est-à-dire que si on suit, et l'autre chose très importante que les neurosciences nous disent, c'est que nous sommes naturellement programmés pour apprendre, et apprendre tous azimuts. Et on le voit très bien chez les tout-petits, ils sont...
Ils apprennent.
Ils sont dans un élan d'exploration qui est sans borne, et parfois on est assez stupéfait de voir avec quelle persévérance ils vont s'acharner à apprendre le nom de tous les dinosaures. En fait, cet élan-là, il n'est pas censé s'arrêter dans la vie. Et si on ne l'arrête pas, il peut aller très loin. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'apprentissage, enfin le cerveau est naturellement disposé pour apprendre beaucoup de choses.
Quelle est la différence entre votre pédagogie et la pédagogie Montessori ou Freinet?
Alors, la pédagogie Montessori, donc qui a été fondée par Maria Montessori en Italie, justement dans ces fameuses années 20 tellement fécondes pour ce qui est des innovations pédagogiques, elle a une attente. Elle a une attente d'apprentissage qui est quand même validée par les adultes, c'est-à-dire qu'il y a une instance extérieure qui va, alors pour les petits, présenter du matériel d'une certaine manière, que l'on ne doit pas détourner, et qui, en effet...
Donc là, il y a des règles.
Il y a des règles très strictes sur la façon dont on apprend. Enfin, la façon dont on apprend. Sur qu'est-ce qu'on doit apprendre avec ce matériel. Si on a 300 heures devant nous, on doit poser de telle manière le flacon, le remettre à tel endroit, on n'a pas le droit de mélanger les choses, etc. On peut pas détourner le matériel. Ça, pour moi, c'était une des limites du système Montessori. Et c'est... Enfin, la limite... Il y a l'idée de faire apprendre très vite aussi, parce que les enfants qui bénéficient du système Montessori, effectivement, Maria Montessori, elle avait compris comment le cerveau de l'enfant fonctionnait, et donc elle avait vraiment exploité ces périodes qu'elle appelle des périodes de cible ou des périodes critiques. Donc il y a un peu cette visée de enfin, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais on peut faire des super humains avec le système Montessori. La pédagogie des écoles démocratiques, c'est aussi, et moi c'est ce qui me plaît dans cette pédagogie, c'est aussi qu'on laisse le temps aux choses en fait. Il n'y a pas d'attente particulière. Et les choses, elles se font naturellement.
Oui, mais il y a tout de même bien, j'allais dire, vous allez passer par la case apprentissage de la lecture, des mathématiques, etc. pour qu'à un moment, l'enfant qui sort de chez vous, par exemple à 19 ans, puisse réintégrer le système entre guillemets classique et poursuivre des études. À quel moment vous validez les connaissances?
Alors, on a un logiciel qui s'appelle Athéna, qui est le logiciel qui nous permet de valider l'acquisition des compétences. C'est-à-dire que chaque enfant peut aller sur son profil Athéna et va valider des compétences. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces compétences, les compétences de mathématiques par exemple, d'abord, elles ne se valident pas forcément en faisant des mathématiques sur un livre. Il y a beaucoup d'autres moments de la vie où on travaille les mathématiques. Quand on fait de la cuisine, quand on fait du bricolage, tout ça, ça valide des compétences.
Et c'est beaucoup plus drôle, c'est ça.
Et bah, du moins.
C'est plus ludique.
Et du coup, c'est oui, intégré aussi de manière plus durable. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est que il a été montré que les enfants qui ne suivent pas le système scolaire traditionnel, le jour où ils ont envie de passer le bac, en un an, ils peuvent récupérer le niveau. C'est pas un problème, en fait. Quand la motivation est intrinsèque, endogène, comme dit Céline Alvarez, quand il y a une motivation endogène, le cerveau développe des capacités qui sont énormes. Et on le voit, nous adultes, c'est pareil. Quand on est stimulé par quelque chose, on a une capacité d'apprentissage qui est décuplée. Ça veut aussi dire que ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça génère beaucoup de souffrance de se forcer à passer le brevet des collèges, par exemple, qui n'est pas indispensable dans la vie.
Ouais.
C'est à partir du moment où on a eu le temps de se connaître et de savoir ce qui nous plaisait à l'intérieur, qu'on peut avoir une motivation et qu'on sait dans quelle direction on va. 80% des jeunes qui sortent de la Sudbury Valley School choisissent d'aller à l'université. Et il y a un taux de réussite qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, ils savent pourquoi ils y vont.
C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à apprendre. On leur donne le goût d'apprendre, c'est ça ?
Ils n'ont pas besoin d'avoir le goût d'apprendre. On l'a, le goût d'apprendre, naturellement.
On le cultive chez vous, en fait, c'est plutôt.
On le laisse éclore. Pour, en tout cas, les plus grands, par exemple, quand on arrive d'un système traditionnel à 12-13 ans, on a parfois besoin de temps pour se réadapter à ce système de liberté. Mais il faut imaginer que... Enfin, on est dans une société où on pense que l'ennui, le rien faire, c'est rien du tout. Et c'est faux. C'est un temps dont a besoin le cerveau, notamment, pour consolider des connaissances, pour faire des sélections. Donc, on a besoin de ce temps-là. Donc, nous, on laisse, en fait, éclore les motivations. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce que j'apprécie, moi, dans ce modèle, c'est que ça laisse le temps aux individus d'apprendre à se connaître eux-mêmes. Et en fait, cette connaissance de soi, on prend pas le temps de l'avoir quand on va tous les jours à l'école au rythme. D'aujourd'hui,
temps,
en fait. On n'a pas le temps.
Nous avons le temps. Vous restez avec nous. On va continuer à échanger sur l'école à l'envers, voir qui sont les encadrants, qui sont les accompagnants. Et bien évidemment, on parlera également budget, puisque vous nous disiez que vous êtes hors contrat. Donc j'imagine qu'il y a un coût pour les parents qui souhaitent utiliser, enfin mettre leurs enfants donc au sein de votre école. À tout de suite, Marie.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec notre invitée aujourd'hui, Marie Narjou, cofondatrice de l'école à l'envers. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Vous êtes un de nos précieux référents éthiques sur Radio Présence. Et première question, Pierre-Yves, à notre invitée, Marie Narjou.
Il y a quelque chose qui m'a frappé en allant sur votre site, c'est que vous êtes installée à Verfeil.
Dans la banlieue de Toulouse.
Et c'est là où il y a le cimetière des petites filles modèles.
Je ne savais pas.
Vous ne le saviez pas.
Non.
Mais vous, votre modèle, c'est plutôt Mowgli et le livre de la jungle, non ?
Je suis assez éloignée de ces stéréotypes, on va dire. En tout cas, j'ai pas envie qu'on réduise l'école à un modèle, une image. Est-ce que vous pourriez préciser un peu votre
question ? C'était une simple boutade.
D'accord.
Non, je voudrais revenir. Ce qui m'a frappé, c'est l'idée qu'un enfant, il faut vraiment le laisser faire ce qu'il veut en termes d'apprentissage, etc. Donc, vous dites, au début de sa journée, il choisit ce qu'il va faire. Mais il y a quand même une offre au départ. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu brièvement, il y a quand même des propositions qui sont faites, j'imagine, par le corps enseignant, je ne sais pas si on a le droit de dire ça d'ailleurs, qui propose un certain nombre de choses dans lesquelles l'enfant va aller puiser, choisir ce qu'il veut faire, etc. Il n'invente rien, en fait, à ce niveau-là. Ou il peut inventer.
Alors évidemment, il peut inventer. Ce que je voudrais souligner, c'est que nous, notre rôle en tant qu'adultes de l'école à l'envers, c'est rendre le milieu le plus riche possible. Mais l'idée n'était pas de remplir l'école de matériel pédagogique, etc. C'était aussi de laisser la place aux jeunes de faire des demandes. Donc, tout est possible en fait. Si un jeune décide qu'il a envie d'acheter un cheval parce qu'il a envie de faire du cheval. Bon, ça paraît complètement irréaliste comme proposition. Mais peut-être qu'on peut trouver un partenariat avec un centre équestre, on fait un échange pour que le jeune aille aider pour l'entretien des chevaux et qu'en échange, il puisse faire de l'équitation. Rien n'est exclu. Donc nous, notre rôle ne sera jamais de proposer quelque chose à destination des enfants. Par contre, nous proposons pour nous. Parce que nous avons des activités... que ça aille de la couture à la comptabilité, Tout ça, c'est dans l'environnement, puisque pour faire fonctionner une école, il y a beaucoup de compétences qui sont sollicitées. Après, chacun d'entre nous, évidemment, dans l'équipe, on a des compétences très très diverses, de par nos parcours professionnels et puis nos goûts personnels. Hein, voilà, formation de prof de français, formation dans l'édition, on a plusieurs personnes, enfin on est plusieurs à être formés en communication non violente. Atelier de communication avec les enfants, l'un d'entre nous est formé en pédagogie Montessori, il y a un animateur qui a fait des années en centre jeunesse, de la communication, enfin il y a beaucoup de compétences présentes, mais on ne va pas les proposer comme ça, on va pas proposer en disant voilà, est-ce que tu veux faire un cours d'anglais ? Non, mais par contre, il se trouve que ça vient. Et que dans d'autres, là, il y a une école, par exemple, l'école dynamique à Paris, qui est sur le même modèle. Un groupe d'enfants a dit, moi, j'aimerais bien qu'on fasse des cours d'italien. Alors nous, notre rôle, ça va être de rendre possible ou d'aiguiller les enfants pour qu'ils arrivent à mettre en place les moyens dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de limite.
Mais alors, comment s'insère là-dedans l'acquisition des savoirs fondamentaux dont parlait Doris tout à l'heure, la lecture, l'écriture, etc. J'ai vu dans vos exemples qu'il y avait une fille qui avait appris à lire à 14 ans.
Alors, c'est pas nos exemples. Ça, c'est l'exemple de la Sudbury Valley School. Alors, c'est intéressant, vous parlez de la lecture. D'abord, j'aimerais bien remettre un peu les choses au clair sur l'éducation nationale. Parce qu'on interroge les structures alternatives, mais on s'interroge pas sur l'éducation nationale. Céline Alvarez, qui a écrit donc Les lois naturelles de l'enfant, qui, elle aussi, repense l'apprentissage à la lumière des neurosciences, part du constat, qui est le constat du Haut Conseil à l'éducation, que, à la fin du CM2, il y a 4 enfants sur 10, donc ça veut dire 40% des enfants qui ne maîtrisent pas les compétences de base de lecture, d'écriture et de calcul. Donc j'aimerais juste dire, enfin j'aimerais remettre ça en place, parce que le système traditionnel échoue là-dessus aussi, hein, parce qu'on ne suit pas on ne connaît pas assez le fonctionnement de l'apprentissage de l'enfant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la mixité des âges présente dans notre école fait que beaucoup des apprentissages fondamentaux se font avec les pairs. C'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture se fait aussi parce que les enfants en ont besoin, parce que autour de lui, il va avoir un enfant de 10 ans qui est en train de lire Harry Potter, par exemple. Donc il y a beaucoup, beaucoup des apprentissages fondamentaux qui se font en interaction avec les pairs. Naturellement, parce qu'on en a besoin. Parce que c'est un désir de pouvoir lire ne serait-ce que toutes les pancartes qu'il y a dans notre école. C'est nécessaire, on en a besoin. Donc ça se fait assez naturellement. Après, évidemment, nous, on peut être là s'il y a une demande, mais c'est pas forcément nous. Ça peut être un adolescent de 17 ans qui va aiguiller un enfant pour lui dire comment est-ce qu'on prononce cette lettre.
Est-ce que vous avez un profil particulier d'enfants que vous accueillez dans vos écoles ? Ou est-ce que vous avez des demandes particulières de parents ?
Alors, pour ce qui est... évidemment, ce qui est intéressant, c'est que... Nous accueillons beaucoup d'enfants qui ne sont pas adaptés au système traditionnel, qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans le système traditionnel. Et là, j'ai envie de dire, je parle pas que des enfants, hein. Je parle aussi des enseignants qui ont du mal à faire à la fois, ils ont envie d'aider les jeunes, mais ils s'aperçoivent que c'est un peu compliqué dans les limites que sont celles du système traditionnel. Donc évidemment, beaucoup, beaucoup de jeunes, d'adolescents, qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui sont diagnostiqués précoces, qui sont...
Des enfants dyslexiques, par exemple.
Par exemple, il n'y a pas de dyslexie dans une école démocratique, ça n'existe pas. Et alors, vous parliez de l'apprentissage de la lecture, en fait, ça c'est pareil, c'est très intéressant de voir ce que la science a dit sur ça. Le cerveau de l'enfant n'est pas prêt au même âge pour la lecture. C'est faux que tout le monde est prêt à 6 ans pour lire. Donc il y en a qui sont prêts à 4 ans, et qui sont extrêmement frustrés de devoir attendre 6 ans. Et il y en a d'autres qui sont prêts à 13 ans. Et c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite justement sur l'apprentissage de la lecture tardif, qui a montré que c'est justement les jeunes qui apprennent tardivement la lecture qui ont les professions les plus intellectuelles. Donc ça permet de relativiser aussi sur nos attentes et puis la projection que nous, on peut avoir de nos peurs de pas acquérir les fondamentaux. En fait, ça se passe. Et ça se passe pas pour tout le monde au même moment.
Pierre-Yves, une autre question.
Si je prolonge un peu la question de Doris. Est-ce que ce système n'est pas finalement un peu élitiste quelque part ? Parce que ça suppose que des parents soient extrêmement impliqués dans l'éducation de leurs enfants pour détecter ces choses-là et avoir envie d'aller vers vous. Il y a quand même... Et la suite de la question, c'est est-ce que c'est éventuellement généralisable ?
Alors, je répondrai donc à la première. Est-ce que c'est élitiste ? En fait... Les enfants qui peuvent se retrouver dans une école comme ça, ça suppose effectivement que les parents se posent des questions, ou en tout cas essaient de chercher des solutions au mal-être de leurs enfants. enfin en tout cas ça, là je parle pour les adolescents. Pour les petits, ça peut être des enfants qui ne sont pas allés à l'école jusqu'à tard, qui sont en instruction en famille, et les enfants désirent intégrer une structure qui soit plus communautaire. Alors évidemment, ça suppose que les parents sont en capacité de se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une autre solution pour mon enfant ? Effectivement, si vous dites « est-ce que c'est élitiste ?» et que vous entendez ça, est-ce que ça suppose que les parents sont en capacité de se poser la question ? Oui. Pour l'instant, oui. Vu le nombre d'écoles démocratiques en France, évidemment, ça émane d'une recherche de la part du parent. Il n'y a pas des écoles démocratiques dans toutes les villes de France. Donc ça suppose qu'il y a une recherche. Et ça suppose que au départ, il y a une volonté de recherche. Après, ça peut venir du jeune. Hein. On a déjà rencontré des jeunes qui sont eux-mêmes arrivés à notre système, hein, qui parce qu'ils ont cherché sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il y a cet outil-là. Hein. Et la deuxième question ?
Sur votre site, vous avez l'air de dire que les parents ont l'obsession du baccalauréat comme étant le passage obligé.
C'est le sésame, oui. Hein, oui. Bien sûr, pour accéder aux études supérieures. Oui.
Il y a même dans vos questions-réponses des questions là-dessus. C'est quand même une minorité de parents qui vont être dans une logique école à l'envers, peut-être.
Alors, ça suppose de faire confiance, mais ça suppose aussi de s'informer sur ce qu'on découvre sur le cerveau. Effectivement, ça suppose un certain lâcher prise, pour moi aussi, parce que on est passé par un système traditionnel, on a vécu ça, donc on a du mal à prendre faire un pas de côté pour se dire que peut-être il y a d'autres solutions. Ça suppose ça, effectivement. Le baccalauréat, c'est un sésame pour les gens qui en ont besoin après. Moi, je connais beaucoup d'adultes qui aujourd'hui pourraient vivre sans leur baccalauréat, d'une part. Et je crois vraiment que quand le baccalauréat, on le passe parce qu'on a un désir derrière, on y arrive. Et il y a des adultes qui tardivement repassent leur baccalauréat parce qu'ils en ont besoin pour une formation ou je ne sais quoi. Effectivement, il faut se sortir de cette idée, parce que c'est une croyance qu'on a tous, que les savoirs de l'enfant ne s'acquièrent que parce qu'ils exécutent une tâche qui leur a été donnée par un adulte. Parce que c'est faux.
Marie, je voudrais revenir sur votre entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'une entreprise ? Oui. Vous êtes fondatrice, cofondatrice, combien êtes-vous ?
Alors, actuellement, nous sommes quatre dans l'équipe.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler d'une entreprise ? Oui et non. À but non lucratif, en tout cas. L'objectif, c'est quand même que chacun d'entre nous arrive à se salarier dans l'école. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une école non subventionnée par l'État, donc c'est une école payante.
Ouais.
Nous avons fait le choix d'avoir des frais de scolarité qui sont absolument indexés sur le revenu des parents, c'est-à-dire actuellement, si je prends là les membres qu'on a actuellement, c'est uniquement des familles à petits revenus.
Donc, vous pouvez nous donner une fourchette ?
Oui, alors les frais tarifs de scolarité sont de 125 euros par mois minimum, et à partir de 12 000 euros de revenus du foyer par an, c'est... Alors c'est un calcul un peu compliqué, c'est 13% du revenu familial après impôt théorique. Voilà.
Ah oui, effectivement. Alors là,
si vous avez besoin de précision, il faut vous nous envoyer un mail, on vous calculera tout ça. Mais voilà, ça donne... là, on a des frais de scolarité qui s'élèvent entre 125 et 300 euros à peu près par
mois. Ça peut aller jusqu'à 300 euros par mois.
Ça peut aller jusqu'à plus même. Hein.
D'accord. Alors qui êtes-vous derrière, j'allais dire, cette structure, derrière l'école à l'envers ? Vous êtes quatre, c'est ça ?
Nous sommes quatre, oui.
Qui êtes-vous ? Quels sont vos profils ?
Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure.
Enseignant,
une personne qui vient du monde de l'édition, un animateur de centre de loisirs, et une quatrième personne qui a un parcours au sein de l'éducation nationale sur des ateliers artistiques notamment. Bon là, c'est des casquettes très 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 étiquetées, hein. On a d'autres cordes à nos arcs, mais en tout cas, c'est ça les milieux professionnels dont on vient principalement.
Pierre-Yves.
Les enfants qui sont dans cette école, quand ils rentrent à la maison le soir, comment ça se passe ?
Alors, je ne sais pas... Non, évidemment, il n'y a pas de devoir. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais je sais, par les retours qu'on peut avoir depuis l'ouverture de l'école, qu'il y a beaucoup d'apaisement. Depuis, enfin, pour certains jeunes, en tout cas, on a une maman qui nous a dit que son fils était transformé... que c'était incroyable. Voilà,
il n'y a pas de notes non plus.
Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation extérieure. Vous voulez d'autres ?
Vous n'avez pas la révolution du style « je fais ce que je veux où je veux quand je veux ».
En fait, il ne faut pas confondre la liberté et l'anarchie. En fait, la liberté au sein de notre école, ça sous-entend que chacun peut être libre. Donc, c'est extrêmement contraignant pour chacun. parce que ça suppose que à chaque instant, on prend en compte qu'on n'est pas seul et qu'on est dans un groupe. Et à ce titre-là, il y a beaucoup de règles qu'il faut qu'on respecte, sûrement plus qu'à la maison.
Dernière question, Pierre-Yves.
Vous allez jusqu'à dire que c'est plus risqué de faire ces études dans le système traditionnel que chez vous. Comment vous pouvez dire une chose pareille?
Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est plus risqué, ce qu'il y a, c'est que je crois que l'épanouissement personnel passe par cette liberté-là. Et que parfois, on l'apprend après 18 ans, après avoir passé le bac, on part un an en voyage et on arrive à reconquérir cette forme de connaissance de soi. Pour moi, là où c'est pas risqué d'avoir des enfants qui sont dans une école démocratique, c'est que ce sont des enfants qui ont une grande confiance en eux et qui n'ont pas de peur par rapport aux autres et qui sont dans l'élan d'aller vers les autres, parce que ça, c'est une disposition naturelle du cerveau aussi que nous, on encourage, donc qui vont vers les autres et qui sont capables d'aller chercher ce dont ils ont besoin pour leur réalisation personnelle.
Est-ce qu'un enfant qui a été élevé dans une école libérée va forcément chercher une entreprise libérée pour travailler?
Ah, ce serait peut-être bien. En tout cas, c'est sans doute quelqu'un sur qui les rapports de pouvoir auront moins de poids. Donc peut-être.
Merci Marine Arjoux. On peut vous joindre facilement parce que je suppose que nos auditeurs vont avoir pas mal de questions à vous poser. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet?
C'est lecolealenvers@gmail.com.
Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. N'hésitez pas à nous joindre. contact@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.